Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Et d'abord un grand merci à vous, chers amis auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter tous les soirs et à prendre le temps de comprendre et de débattre de l'actu. Plus 20% de progression pour Europe Soir, on est vraiment très fiers et on vous remercie du fond du cœur pour cette confiance que vous nous accordez. Alors on ne change rien et on continue. Notre invitée d'ailleurs ce soir à 18h20, c'est une femme au courage exceptionnel. Après avoir survécu à une tentative de suicide, elle a été amputée des deux jambes et de son bras. Elle est la première femme dotée d'un bras bionique en France. Elle raconte sa reconstruction et sa nouvelle vie dans un livre plein d'espoir, Une vie à inventer, aux éditions Albin Michel. Elle s'appelle Priscille Déborah et elle sera avec nous dans quelques instants. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Jean-Luc Mélenchon en voyage en Bolivie. Ça fait polémique, on en parlera. 19h15, la carte blanche de l'entrepreneur Alexandre Malafaille. Et puis 19h20, grand débat ce soir sur l'affaire la plus mystérieuse de ces dernières décennies, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Cela fait 10 ans maintenant que l'homme est recherché par toutes les polices. Est-il mort? Est-il toujours vivant? Qu'en pensent aujourd'hui les enquêteurs? On en parlera ce soir avec nos invités, notamment l'un de ses amis d'enfance. Le journal d'abord avec Isabelle Millet.
Bonsoir Isabelle. Julien. Bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe Soir.
Des créneaux dédiés de vaccination. Pour ces professionnels âgés de plus de 55 ans, seront ouverts dès ce week-end dans plusieurs centres du territoire national.
Enseignants, policiers, gendarmes, surveillants de prison, professionnels de la petite enfance, autant de professions qui vont donc pouvoir bénéficier de l'ouverture de créneaux de vaccination dédiés.
Le gouvernement passe à la vitesse supérieure, on vous dit tout donc dès le début du journal.
Nous serons aussi en Allemagne où les écoliers vont devoir s'auto-tester dès la semaine prochaine et c'est loin d'être évident.
La perpétuité pour l'homme qui avait foncé sans raison sur une pizzeria en région parisienne. Il y a 4 ans, il avait tué une adolescente.
2 ans après l'incendie de Notre-Dame de Paris, on verra où en est le chantier de restauration.
Et puis en cette journée mondiale de l'art, on verra aussi comment on peut visiter de prestigieuses expositions en direct, sans sortir de son salon.
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,41% à 6234 points.
La météo avec Anissa Dadi, de l'instabilité demain dans le sud. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien. Oui, sur le grand quart sud-est, demain sur les Alpes, la vallée du Rhône, le massif central, la Provence et la Corse. Dans toutes ces régions, le temps sera un petit peu plus agité. Les températures, elles, restent stationnaires et toujours froides pour la saison.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc l'annonce du jour concernant la campagne de vaccination. Les choses s'accélèrent.
Oui, Jean Castex et son ministre de la Santé, Olivier Véran, visitaient cet après-midi un centre de vaccination en banlieue parisienne. Le Premier ministre a annoncé donc la mise en place de créneaux dédiés.
Des créneaux dédiés de vaccination. Pour ces professionnels âgés de plus de 55 ans, seront ouverts dès ce week-end dans plusieurs centres du territoire national. Les personnes concernées pourront se faire vacciner soit en ville ou dans ces centres, en AstraZeneca ou en Pfizer et Moderna pour ceux qui en relèvent. Les professeurs des écoles, des collèges et des lycées, les AESH, les ATSEM, les professionnels de la petite enfance, ceux de la protection de l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse. D'autre part, les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes, les surveillants de l'administration pénitentiaire, d'autre part. Ils pourront donc recevoir une première dose de vaccination. Cela représente un peu plus de 400 000 professionnels. Cette mobilisation de créneaux, je vous l'annonce, durera un minima 2 semaines, y compris les week-ends.
Le Premier ministre avec Hélène Terzian. Bonsoir Anne Le Gall.
Bonsoir.
Alors on va faire le point avec vous sur la vaccination après ces déclarations de Jean Castex. On est à 12 millions de primo-vaccinés. On vient de l'entendre, le Premier ministre veut faciliter et accélérer l'accès pour certaines professions, pour des personnes prioritaires. Ça veut dire que ce soir, ça y est, on passe à une nouvelle étape.
Effectivement, avec 12 millions de vaccinés, on a franchi un nouveau seuil. Et hier, on avait aussi dépassé le cap des 400 000 injections quotidiennes. Par ailleurs, en termes de couverture vaccinale, les derniers chiffres indiquent qu'on est à 65% de primo-vaccinés chez les plus de 75 ans. Et dans les EHPAD, c'est encore mieux, indiquait le professeur Alain Fischer, qui était l'invité de Patrick Cohen à la mi-journée.
Vous savez que près de 95% de ces personnes ont été vaccinées, ce qui est vraiment une performance vu la difficulté logistique que cela représentait. Eh bien, on observe que le nombre de décès dus au Covid de ces personnes a drastiquement diminué. Donc c'est un premier signe très net de l'efficacité de la campagne de vaccination.
et les personnes les plus fragiles étant protégées, il faut donc maintenant penser à l'élargissement, au-delà des annonces de Jean Castex. Ce qu'on peut dire pour la suite de la campagne, c'est qu'à partir de demain, les 60 ans et plus pourront avoir accès aux 3 vaccins disponibles en France, de l'AstraZeneca en ville et un vaccin à ARN messager en centre de vaccination, que les 55-60 ans peuvent aussi toujours prendre rendez-vous pour se faire vacciner avec de l'AstraZeneca chez leur médecin ou leur pharmacien, et enfin, que l'ensemble des plus de 50 ans devraient normalement avoir accès à la vaccination à compter de début mai.
Merci beaucoup Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Alors pourra-t-on rouvrir les lieux de culture et de convivialité, les terrasses notamment, à la mi-mai? Justement, eh bien, réunion en ce moment pour évoquer la sortie de crise et l'organisation d'un début de retour à une vie normale. Pas sûr que cette échéance puisse être respectée en vue de la situation sanitaire qui reste donc préoccupante.
En Allemagne maintenant, c'est la nouveauté pour les écoliers au retour des vacances de Pâques. Tous les enfants ont reçu cette semaine 2 tests d'autodépistage.
Et oui, car à partir de lundi, il sera obligatoire au moins 2 fois par semaine de procéder à cet autodépistage. Ça veut dire que ce sont les enfants eux-mêmes qui vont devoir le faire en classe. Bonsoir Hélène Kohl.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante à Berlin. Alors à quelques jours de l'entrée en vigueur de cette mesure, beaucoup de questions et d'inquiétudes aussi bien chez les enfants, notamment les vôtres, que chez les adultes.
Oui, je vous parle d'expérience puisqu'effectivement j'ai 2 enfants scolarisés à Berlin. Alors cette semaine, on a pu s'entraîner à la maison avec les 2 tests qu'on a reçus. Bilan mitigé, la grande qui a 12 ans maîtrise à peu près le geste, mais le plus jeune qui est en CP ne se sent pas prêt à le faire tout seul lundi en classe.
En fait, moi j'ai 6 ans, mais moi j'ai un petit nez et ça m'a fait très mal. Je trouve ça un peu difficile. Je pense que notre maîtresse, elle va nous aider, mais quand même, je pense qu'on ne va pas arriver tout seul à ouvrir, ou ça va, un liquide va se reverser. Je pense que c'est une mauvaise idée de faire ça.
Alors évidemment, ce matin, devant la grille de l'école, c'était le sujet de discussion. Les parents redoutent la réaction de leur enfant s'il est testé positif, la panique dans la classe. Les familles ont l'impression d'être sacrifiées alors que les entreprises ici en Allemagne ne sont toujours pas obligées, elles, de tester leur personnel. Mais après 2 mois et demi à faire l'école à la maison cet hiver, beaucoup de parents sont fatalistes.
Pour les plus jeunes, surtout, ces tests ne sont pas du tout adaptés, mais on doit y passer. Le principal, c'est que les écoles restent ouvertes.
C'est la règle, sinon on est refusé à l'école. Et l'école, c'est ce qu'il y a de plus important.
Les enseignants s'inquiètent, eux, pour la durée d'apprentissage. L'école n'a repris, mais seulement 3 heures par jour. En demi-groupe, c'est très peu. En attendant, on se démène pour trouver des solutions. Dans notre école, la direction va réserver une partie de la cour pour des tests en présence des parents avant le début des classes.
Eh bien, merci beaucoup. Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en direct de Berlin.
Dans l'actualité également ce soir, Isabelle, le verdict au procès du chauffard qui avait foncé sur une pizzeria en région parisienne en août 2017.
Il avait tué une jeune fille de 13 ans et avait blessé une dizaine de personnes. Justin Morin, la cour d'assises de Seine-et-Marne, vient de le condamner à la peine maximale.
Oui, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans en raison de l'exceptionnelle dangerosité de l'accusé, selon les mots du président de la cour d'assises. L'accusé qui n'a eu aucune réaction à l'énoncé de ce verdict. Dans la salle, un homme portant un t-shirt à l'effigie d'Angela, l'adolescente décédée, lève le poing. La mère de la victime, elle, a fondu en larmes. Le père est sorti de la salle en disant « on l'a eu, la société l'a eu ». Sarah, elle, a enlacé une autre victime. Elle travaillait à la pizzeria le soir des faits.
Je suis très contente. On a eu notre justice, enfin. On nous a entendus, on nous a écoutés et la peine ne réparera pas le mal qu'il a fait, mais elle est très juste. Il ne pourra plus faire de mal.
Pendant le procès, le conducteur a toujours dit qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer. La préméditation a pourtant bien été retenue par les jurés, ce qu'a salué François Mazon, l'avocat des parents de l'adolescente décédée.
Il n'a pas assumé ses responsabilités. Et de ce point de vue-là, ce fameux sentiment de culpabilité que toutes les victimes ont exprimé, je pense qu'avec un verdict de ce niveau-là, on a clairement montré qui était coupable. Et c'est pas eux.
Alors on ne sait pas encore si le conducteur fera appel. Son avocat fait savoir qu'il allait en discuter avec lui dans les jours à venir.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 18h09 avec donc cette dernière minute dans l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia, 8 ans.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1, nous a rejoint dans ce studio. Guillaume, les 3 ravisseurs de la petite fille viennent d'être interpellés.
Oui, ces 3 hommes ont été arrêtés en région parisienne. Aujourd'hui, ils ont été retrouvés par les gendarmes et ils sont placés en garde à vue. Alors, on ne connaît pas encore leur profil, mais ce sont bien les 3 hommes qui sont soupçonnés d'avoir enlevé la petite fille mardi matin. Leurs auditions vont être déterminantes car à cette heure, la mère de la fillette et la fillette n'ont pas encore été retrouvées. Les recherches et l'enquête se poursuivent.
Merci beaucoup pour ces précisions. Cette dernière minute donc dans l'enquête sur la disparition de la petite Mia, âgée de 8 ans, enlevée mardi soir dans les Vosges.
Il y a 2 ans, à cette heure-ci, les premiers camions de pompiers se dirigeaient toutes sirènes hurlantes vers la cathédrale Notre-Dame de Paris, monument emblématique évidemment, où allait se jouer un drame.
La charpente qui s'embrase, les premières flammes, la stupeur des Parisiens et des touristes qui comprennent ce qui est en train de se passer, les chaînes de télé et de radio qui interrompent leur programme pour suivre en direct l'incendie, à Europe 1 l'antenne passant spéciale pour une nuit interminable. 2 ans plus tard, Emmanuel Macron, casque sur la tête, a visité le chantier ce matin.
Oui, on n'est qu'à une étape, a dit le président de la République. On voit tout ce qu'il reste à faire si l'on veut tenir nos objectifs. C'est 2024, les objectifs. Justement, Pierre Herbulot, 2 ans après, où en est-on aujourd'hui de ce chantier de restauration ?
Alors là, on est à la toute fin de la première phase capitale, celle de la sécurisation de l'édifice. On a craint, hein, dans les jours et les mois qui ont suivi l'incendie, que la cathédrale ne s'effondre. Aujourd'hui, ce risque est écarté. Michel Picot est le président de l'association Friends of Notre-Dame. Il se rend régulièrement sur le chantier et décrit ses 2 premières années de travaux.
Des opérations de soutènement des grands arcs-boutants de la nef de la cathédrale, d'enlèvement de statues qui menaçaient de tomber et qui devaient donc être protégées, l'enlèvement en fait de l'échafaudage calciné de la flèche de la cathédrale.
Reste à consolider la voûte, ça devrait être terminé cet été. Ce n'est qu'après que la phase de reconstruction, de restauration à proprement parler pourra débuter, explique Christophe Rousselot de la Fondation Notre-Dame.
La cathédrale est prête à restaurer la flèche, c'est-à-dire que l'échafaudage va être monté en partant du chœur, en partant du sol, comme Viollet-le-Duc l'avait fait en son temps. Et cet échafaudage va culminer à 96 mètres pour que la flèche puisse être reconstruite avant que la toiture et la charpente ne le soient.
Et ça passe par des appels d'offres obligatoires. Il y en a pour plusieurs mois sur un chantier pareil. Pour autant, le timing est pour l'instant respecté. Une première messe devrait pouvoir se dérouler à Notre-Dame dans 3 ans. Et puis côté finances aussi, on est bon. 165 millions d'euros utilisés sur les quelques 830 millions de dons venu de toute la France.
Merci Pierre Herbulot pour ces précisions. Un triste anniversaire en tout cas qui coïncide avec la journée mondiale de l'art.
Oui, l'art dont on manque cruellement ces derniers temps. Et bien figurez-vous que les monuments nationaux lancent aujourd'hui une initiative qui ne remplacera pas, mais presque, les visites dans les musées. Diane Chinouda, il s'agit de visites guidées à distance, depuis son salon, mais en direct et avec un vrai guide.
Oui, c'est ça, des visites à distance avec un vrai guide. Alors ça commence le 23 avril au château d'Azay-le-Rideau, le 28 à la Sainte-Chapelle à Paris, et début mai à la Conciergerie, à l'Arc de Triomphe, et dès le 6 mai, on pourra découvrir les tours de la cathédrale de Rouen. À chaque fois, des visites qui durent 1 heure. Philippe Bellaval est le président du Centre des Monuments Nationaux.
Nous avons mis au point ce dispositif de visites guidées à distance, qui sont de véritables visites guidées, puisque sur un créneau horaire, on a à sa disposition un guide qui commente soit une visite virtuelle, mais on peut lui poser des questions, on peut l'interrompre, on peut échanger avec lui, ou bien alors qui se déplace en direct dans le monument et qui fait visiter ce monument exactement comme le ferait un guide sur place.
La visite coûtera 9 euros par écran. Il y aura aussi l'abbaye du Mont-Saint-Michel, mais réservée pour l'instant aux scolaires. Le dispositif concernera plus tard d'autres monuments, même lorsqu'ils rouvriront, car ces visites guidées à distance peuvent être bien utiles aussi pour les touristes étrangers qui ne peuvent pas encore venir en France, et par exemple aussi pour le public en EHPAD.
Effectivement, ça ouvre des perspectives intéressantes. Diane Chinouda, et les réservations ouvrent demain. Une immense surprise au Masters 1000 de tennis de Monte-Carlo aujourd'hui avec l'élimination de Djokovic en 8e de finale. Il s'est incliné en 2-7 face à Daniel Evans. Ça passe en revanche, finger in the nose pour Raphaël Nadal, qui fait plus que jamais figure de favori. Et il n'y a plus de Français puisque Lucas Pouille a été éliminé.
L'UEFA a officialisé les dates des demi-finales de la Ligue des Champions.
Le PSG recevra Manchester City le mercredi 28 avril sur la pelouse du Parc des Princes. Les Parisiens se déplaceront en Angleterre le mardi 4 mai pour le retour. Et dans l'autre demi-finale, le Real recevra à l'aller le 27 avril avant de se déplacer à Chelsea le 5 mai.
Merci Isabelle, c'était le journal d'Isabelle Millet. On vous retrouve évidemment pour le rappel des titres à 18h30. La météo avec Anissa Dadi qui nous a retrouvé. Le temps devient plus nuageux au fil des heures.
Oui, alors la journée commence demain, Julien, avec un grand, beau et franc soleil sur presque toutes les régions. En Bourgogne, en Alsace et en Lorraine, là, le ciel est un petit peu plus couvert. Dans les Alpes et en Corse, nous avons une instabilité présente depuis quelques jours maintenant qui apporte des nuages et des averses toute la journée. Et puis, vous le disiez, au fil des heures, les nuages arrivent, le ciel se couvre. sur tout le pays. En fait, c'est dans le grand quart sud-est que le temps est le plus agité demain, avec du Massif central jusqu'aux Alpes en passant par le Lyonnais et jusqu'en Provence et même jusqu'en Corse. Là, nous aurons demain après-midi des averses, du vent avec le Mistral qui souffle jusqu'à 60 km/h et de la neige en montagne, puisque sur le Massif central, les Alpes, nous aurons de la neige à partir de 700 mètres et en Corse, 1300 mètres. Les températures, elles sont froides, quasiment les mêmes encore aujourd'hui, demain qu'aujourd'hui, avec moins 5 au Puy-en-Velay, moins 4 à Aurillac, moins 2 à Beauvais, moins 1 à Rennes, 2 degrés à Paris, Brest et Toulouse, 8 pour Nice le matin et puis dans l'après-midi, ça ne bouge pas. 8 degrés pour Saint-Étienne, 10 à Nancy, 11 à Caen et Cherbourg, 12 degrés pour Paris, 15 à Nice et Bordeaux et 17 la maximale pour Ajaccio et Perpignan. Un peu de patience, ça devrait remonter au thermomètre. Allez, ce week-end, ça sera un tout petit peu plus doux.
Ce week-end, vendredi soir et samedi, ou ce week-end dimanche soir, Anissa? Soyons précis.
Samedi-dimanche.
Samedi-dimanche. Bon, on compte sur vous. Merci, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invitée à 18h20, elle est une miraculée. Passée tout près de la mort, amputée de 3 membres, elle peut désormais contrôler sa prothèse de bras par la pensée. Elle se présente comme la première femme bionique de France et raconte son incroyable histoire dans un livre passionnant, Une vie à inventer, aux éditions Albin Michel. Bonsoir Priscille Déborah.
Bonsoir Julien.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Est-ce que ça vous va d'abord qu'on vous présente comme une femme bionique?
Oui, j'aime bien ce terme.
Pourquoi ?
Parce que si vous voulez, par rapport au handicap, ou parfois c'est assimilé à quelque chose de négatif, de triste, de malheureux, enfin tout ça, je trouve que du coup, ça donne une image déjà beaucoup plus positive du handicap.
Oui.
Et tout d'un coup, c'est comme si j'avais un truc en plus, alors qu'avant, j'avais finalement perdu des choses. Et puis, au-delà de ça, le côté bionique, c'est cette histoire du cerveau, en fait, finalement, c'est tout ce qui est neurosciences. Et donc, ça veut dire que si, après 2 ans de rééducation, je suis capable de... tout d'un coup dire à mon cerveau qu'il a de nouveau un bras et le commander par la pensée, on peut se dire que finalement, avec notre cerveau, on peut faire des trucs incroyables. Et
alors, on va en parler de ce bras bionique, comme on vient de le dire. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur ce drame qui a changé votre vie. C'était il y a 15 ans, vous aviez 31 ans, vous étiez cadre, une vie à 100 à l'heure, une vie de famille, avec votre mari de l'époque, votre fille. En apparence, tout va bien. Mais en réalité, vous glissez dans une profonde dépression jusqu'à ce geste désespéré. C'est en 2006, vous vous jetez sous un métro. Mmh. C'est un geste qui vous hante aujourd'hui encore ?
Évidemment que j'y pense régulièrement parce que, en fait, si vous voulez, plus les années passent et plus je me sens éloignée de cette Priscille de l'époque. Donc, c'est toujours très étrange de devoir revenir là-dessus. En fait, la dépression, si vous voulez, c'est une vraie maladie qu'on ne prend pas assez en considération. Et tout ce côté, quand on arrive à des états suicidaires, c'est en fait, quelque part, on n'est plus du tout maître de soi-même, quoi. Et c'est vrai que parfois, il y a vraiment des gens qui jugent cet acte-là, mais il faut vraiment dire aux gens qu'en fait, on est comme possédé par une force qui nous dépasse. Et c'est juste qu'en fait, on n'en peut plus de cette souffrance psychique.
Et vous racontez qu'au moment de sauter, vous criez... « Je ne veux pas mourir ». Vous vous en souvenez aujourd'hui encore de ces quelques mots avant le choc et ce drame ?
Oui, effectivement, je m'en souviens. Je pense que vraiment, j'avais juste envie de changer de trajectoire, en fait, mais je ne savais pas comment faire. Je pense que j'ai été mal accompagnée à l'époque. Je n'ai pas vu les bons psychiatres. J'ai voulu aussi résoudre mes problèmes trop vite. Et voilà. Mais effectivement, je pense que sincèrement, je voulais juste d'une autre vie, en fait.
Est-ce que vous vous souvenez d'abord, en quelques mots, du moment où vous vous êtes réveillée ?
C'était l'horreur, évidemment, puisque j'étais encore en dépression, mais avec ce corps horrible, avec ces 3 amputations. Donc,
aux jambes et au bras droit.
Voilà, donc effectivement, double amputé de jambes et du bras droit. Et donc là, c'est juste un vrai cauchemar. J'ai juste là, pour le coup, vraiment envie de mourir, parce que je me dis, comment est-ce qu'on peut vivre dans cet état-là ?
Oui. S'ensuivent de longues années de rééducation, de réappropriation de votre corps et l'adaptation de votre vie au handicap, le retour à la maison, le retour à la vie en somme. Ce chapitre dans lequel vous racontez tout ça, vous l'appelez la renaissance.
Oui.
C'est comme ça que vous l'avez vécu ? Ça a été une renaissance pour vous ?
Effectivement, pour moi, c'est vraiment comme si je m'étais donné naissance à moi-même pour la première fois, en choisissant cette fois-ci vraiment la vie que je souhaitais avoir. Alors bizarrement, effectivement, j'étais lourdement handicapée, mais tout d'un coup, je me suis dit, puisque c'est ça, dans cette nouvelle vie, en fait, je réaliserai tous les rêves que je m'étais interdit jusqu'à présent. Et finalement, personne ne décidera à ma place. C'est vrai qu'avant, j'étais... pas du tout sûre de moi. Et là, c'est comme si ça avait vraiment, j'avais confiance en moi et confiance en ce que je voulais faire de ma vie.
Oui. Alors, ce qui est très fort dans le récit que vous faites, c'est que c'est une forme de leçon de résilience, on peut dire ça comme ça. Vous vous lancez dans le sport, vous reprenez cette activité hyperactive que vous aviez avant le drame et avant ce geste. La natation, le ski, et puis l'amour aussi arrive. Vous rencontrez quelqu'un qui est très important aujourd'hui dans votre vie. Il est d'ailleurs ici, dans la coulisse. Il s'appelle Fred.
Ah oui.
C'est votre compagnon maintenant.
Oui, effectivement, c'est vraiment, j'ai vraiment rencontré mon âme sœur, un peu ce fantasme de sa moitié. C'est vraiment ça quand j'ai rencontré Fred. Et en fait, à chaque fois, c'est lui qui me pousse toujours plus loin en me disant, bah attends, la plongée, c'est complètement possible. Il est hyper ingénieux dans toutes les solutions qu'il trouve pour justement que je puisse faire tel ou tel sport. C'est ça vraiment dans le handicap, en fait. Oui. C'est vraiment cette idée de réinventer à chaque fois une vie possible, en fait.
Je parle de Fred parce qu'il a eu un rôle très important sur la suite et sur cet équipement que vous avez aujourd'hui avec votre orthoprothésiste. Il vous a convaincu de vous lancer dans cette grande aventure avec cette prouesse absolument incroyable, technologique et médicale. C'est cette prothèse du bras droit donc, que vous commandez par la pensée. Vous la commandez par la pensée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
En fait, l'idée, c'est de récupérer des nerfs qui ont été sectionnés, oui, au moment de l'amputation, des nerfs qui sont dans le bras, mais du coup, qui sont un peu, qui se baladent tout seuls, si vous voulez, qui n'ont plus de fonction. Et en fait, de les réinnerver dans des muscles du bras en essayant de retrouver un schéma moteur logique, en fait, le schéma moteur d'avant.
Oui, ça n'est pas aussi intuitif qu'un membre naturel. Vous êtes obligé de penser l'acte avant de le réaliser.
Alors, à vrai dire, au début, oui, mais de moins en moins. En fait, maintenant, vraiment, c'est assez immédiat. Par contre, ça reste une prothèse parce que c'est 6 mouvements de base. Voilà, il y a plein de mouvements, par exemple, de certains mouvements du poignet que je ne peux pas faire. Mais par contre, oui, c'est vraiment hyper rapide maintenant.
Vous pouvez...
par exemple, regardez, j'ouvre la main, tac, ouais. Je ferme la main, tac.
Et vous vous dites, j'ouvre et je ferme la main
en fait,
à ce moment-là.
Je ne me dis même plus rien, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, en fait. C'est vraiment... là, si vous me demandez de déplier le coude, je déplie le coude... J'ai pas vraiment dit, tu déplies le coude. Enfin,
c'est
voilà,
quasiment instantané.
Ouais, ouais, ouais.
Quand on vous l'a installé, les premières sensations que vous avez eues, comment vous avez ressenti ce moment ?
C'était magique parce que si vous voulez, il y a quand même eu 2 ans de rééducation avec un travail acharné, avec toute une équipe médicale derrière. Et ce qui était très fort, c'est effectivement d'être avec toute cette équipe-là à vivre cette joie de tout d'un coup d'avoir ce bras qui fonctionnait immédiatement. Donc ça a été une joie immense. Et derrière ça, c'est aussi finalement la récompense finalement d'un travail acharné, comme quoi quand on se fixe un objectif, quel qu'il soit, quand finalement on travaille dur, et ben c'est une vraie victoire quand on arrive au but, quoi.
Il y a aussi quelque chose que vous racontez lors de ce retour à la vie et de ce retour à la technologie aussi avec ce bras et ses prothèses, c'est le regard des autres qui a changé parce que vous étiez devenue la première femme bionique grâce à cette technologie. Mais avant cela, c'est ce que vous écrivez, page 97, il y a eu des amis qui vivaient mal votre corps meurtri. Alors que vous passez une après-midi à la piscine avec eux, ils préfèrent que vous ne veniez pas dîner chez eux le soir parce que c'était prévu. Comment est-ce qu'on vit ça ?
Alors effectivement, quand on le vit, c'est extrêmement douloureux. Parce
de la part d'amis en plus,
voilà,
c'est ce que vous racontez
voilà,
dans le livre.
C'est exactement ça, c'est qu'en plus quand c'est de la part d'amis, des gens qu'on connaît, c'est encore plus douloureux parce que tout d'un coup on se sent étranger en fait. Et c'est super violent en fait, on se sent réduit à rien, enfin, ça nous renvoie justement au handicap, à tout d'un coup à notre différence. Et c'est vrai qu'avec ce nouveau bras, tout d'un coup, certains de ses amis reviennent, bizarrement.
Vous leur en avez voulu ?
Non, parce que si vous voulez, pour me reconstruire, justement, je me suis concentrée sur d'autres choses et je n'ai pas envie du tout d'être dans ce côté un peu négatif.
Oui.
Ça m'a juste amusée de voir qu'un simple bras pouvait tout d'un coup permettre ça. Quoi.
Il y a quelque chose de très fort aussi dans le récit, et c'est d'ailleurs la conclusion de votre livre. Et c'est amusant que ce soit la conclusion, parce que tout au long de la lecture de ce récit, c'est la question qu'on se pose. Est-elle plus heureuse aujourd'hui ? Et vous terminez... avec cette phrase, il y a 15 ans, les gens disaient que j'avais tout pour être heureuse et je ne l'étais pas. Aujourd'hui, beaucoup pensent certainement que je ne peux pas l'être et pourtant je le suis.
Pour moi, c'est vraiment important de le dire parce que finalement, ce livre, si vous voulez, c'est sur le sens de la vie.
Oui.
Et finalement, que la vie est un chemin et ce qui compte, c'est en fait, c'est trouver ce qui nous correspond. Moi, bon, j'ai eu ce parcours douloureux que je souhaite à personne, évidemment, mais en tout cas, c'est un parcours qui m'a permis déjà de trouver ma voie et en plus, quelque part, de modifier ce que je vais transmettre à mes filles et aux générations futures.
Beaucoup de sociologues et de Français se posent la question de la quête du bonheur. Quel est le bonheur aujourd'hui pour vous ?
Je pense que c'est tout simplement d'être à ma place, Du coup, je suis bien partout où je vais, dans les rencontres que je fais, avec mon mari, avec ma famille. Je connais mes piliers, donc ma famille, ma peinture, les rencontres. Et je crois que c'est tout simplement ça, encore une fois, c'est vraiment être à sa place. Et du coup, quand on est à sa place, finalement, tout est juste, tout est centré, l'énergie, elle est là où il faut. Et du coup, en fait, une rencontre en amène une autre, et c'est ça la vie, en fait.
Bien, ça s'appelle Une vie à inventer, Priscille Déborah, coécrit avec Sandrine Cohen. L'incroyable leçon de vie de la première française bionique aux éditions Albin Michel. Merci infiniment d'avoir passé ces quelques minutes avec nous.
Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le rappel des titres avec vous, Isabelle Millet, à 18h30.
Et les ravisseurs présumés de la petite Mia, 8 ans, enlevés mardi matin dans les Vosges, ont été interpellés aujourd'hui en région parisienne. Ils sont en garde à vue. En revanche, la petite fille et sa maman sont toujours recherchées. La vaccination, les enseignants, les policiers, les gendarmes, les personnels pénitentiaires et d'autres professions particulièrement sensibles vont pouvoir bénéficier de créneaux dédiés dès ce week-end, annonce du Premier ministre. À condition d'avoir plus de 55 ans, ça concerne environ 400 000 personnes. Pourra-t-on ouvrir les lieux de culture et de convivialité, les terrasses notamment à la mi-mai? Réunis en ce moment entre Emmanuel Macron et ses ministres pour évoquer la sortie de crise et un début peut-être de retour à la vie normale. Depuis aujourd'hui, en tout cas, les voyageurs en provenance de Guyane sont soumis par précaution à des tests antigéniques à leur arrivée en métropole, en plus du PCR qui est obligatoire 72 heures avant le décollage. La Guadeloupe va, elle, introduire de nouvelles restrictions après avoir constaté la semaine dernière une hausse significative du nombre de cas. Et puis le Parlement adopte la proposition de loi controversée sur la sécurité globale. Le texte comprend une version réécrite du polémique article 24, mais qui pénalise toujours la provocation à l'identification des forces de l'ordre.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour un journal complet. Un petit coup d'œil au temps avant de passer aux grandes voies. Nice, une journée toujours agréable à l'ouest demain matin.
Oui, demain matin, le soleil va briller presque partout. En Lorraine, en Alsace, en Bourgogne, nous avons un ciel qui est un petit peu plus gris. Des Alpes à la Provence, dans le sud-est, là, le ciel se couvre au fil des heures. Les nuages arrivent avec des averses. Des Hauts-de-France à la Bretagne, le long des côtes de la Manche et tout le long du littoral atlantique. Vous l'avez dit, Julien. Demain, ce sera encore une belle journée. Là, le soleil résiste sur ces régions-là. Alors qu'ailleurs, c'est un petit peu plus gris. Sur le Massif central, les Alpes, la vallée du Rhône, la Provence, la Corse, nous avons des averses demain, tout au long de la journée. Sur les reliefs, de la neige des 800 mètres. Et côté température, ça ne bouge pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui.
Merci Anissa, à tout à l'heure, 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta. Bonsoir.
Bonjour.
Michel. Franz-Olivier Gisbert, éditorialiste au Point. Bonsoir,
bonsoir
Franz. Claire Chartier, rédactrice en chef débat et idées à l'Express. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Alors on revient ensemble d'abord sur cette réunion qui se tient en ce moment à l'Elysée. Emmanuel Macron qui a réuni ses principaux ministres pour envisager les protocoles de réouverture et préparer la sortie de crise. Tiendra-t-il sa promesse d'une réouverture des terrasses et lieux culturels à la mi-mai, qui sont d'ailleurs fermés, je le rappelle, on l'a un peu oublié, hein, mais depuis le 30 octobre, les restaurants, les cafés, les musées, les cinémas sont fermés. Vous y croyez, vous, Claire Chartier, une réouverture mi-mai ?
Je ne sais pas si j'ai à y croire ou pas, ça dépendra vraiment de la situation épidémiologique. C'est vrai que je pense qu'on le sait maintenant, la réalité.
Oui, mais vous savez qu'il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte.
Non,
il y a
mais malheureusement,
la politique, l'acceptabilité,
bien sûr.
Et puis il y a aussi le poids des images. Je le répète, on l'a dit hier ici même, l'Angleterre qui a ouvert ses terrasses. On voit ces Anglais qui prennent du plaisir à boire une pint ou un café en terrasse. Il y a la Suisse qui va ouvrir ses terrasses. Il y a la Belgique
aussi. Ça serait dommage qu'à nouveau, ça ne soit pas la réalité épidémiologique qui prime, c'est tout. Tout simplement, c'est qu'on n'a pas voulu se rendre compte que la première chose qu'il fallait considérer, c'était le taux de circulation de ce virus. C'est ça qui prime surtout. Et de fait, on en est arrivé à reconfiner parce que la priorité, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça circule, parce que tant que ça circule, eh bien, ça peut flamber. Les vaccins peuvent être inopérants face aux variants, etc. Donc, c'est véritablement ça le premier critère. Donc, si ce critère il est favorable, je pense qu'Emmanuel Macron ouvrira, mais à mon avis, c'est celui-là qui est décisif.
Du pragmatisme, donc, c'est votre réponse. Franz-Olivier Gisbert, il y a quand même quelque chose qui est assez fascinant dans cette histoire. Ça fait un an maintenant qu'on a vécu le premier confinement et on est toujours à chercher des protocoles de réouverture. On a l'impression qu'on n'a pas avancé sur cette question de protocole de réouverture. Il y a les Israéliens qui ont fait des trucs absolument formidables avec les smartphones, avec des applications, avec de la data. Et nous, on en est toujours à se demander s'il faut laisser 1,50 m ou 2 mètres entre les tables.
Je pense qu'on a eu un gouvernement trop timoré. Il y avait plusieurs solutions qui se faisaient à nous. Il y avait la solution du zéro Covid. Ça, c'est la solution adoptée par toute une série de pays. qui ont repris vie depuis déjà longtemps, oui. La Corée du Sud, Taïwan, l'Australie,
la Nouvelle-Zélande.
Pour des raisons différentes les uns et les autres, mais enfin, ils s'en sont sortis, mais avec une politique extrêmement rigoureuse.
Oui.
Nous, on ne l'a pas voulu. Ensuite, il y avait la solution aussi de la vaccination à tout prix. Exemple la Grande-Bretagne, exemple Israël, et là à nouveau les terrasses sont ouvertes en Grande-Bretagne. Bon, nous on a choisi ni l'une ni l'autre parce qu'on était un peu enquistés dans l'Europe et que l'Europe grosso modo a une mauvaise stratégie, celle de, qu'on peut appeler le stop and go. Et voilà, donc on attend, on ne sait pas, on ne peut pas répondre à ce genre de questions parce que le 15 mai, oui peut-être, il l'a dit. Mais on verra, ce sera peut-être en juin, parce que bon, les vaccinations, est-ce qu'on arrivera à suivre le rythme qui a été indiqué par le Premier ministre ? Oui. Ça, j'en suis pas trop sûr, parce qu'il y a quand même des problèmes de vaccins qui se posent.
Et puis, il y a un autre élément, Michel Cotta, je vous laisse réagir là-dessus, c'est que l'exécutif s'enferme à chaque fois dans un calendrier. On se souvient qu'il nous avait annoncé la réouverture des cinémas, des théâtres et des musées le 15 décembre dernier, ensuite la réouverture des restaurants le 20 janvier 2021, et puis mi-avril, le retour...
Les calendriers, c'est un truc de débutant, je signale. En politique, on apprend ça, normale, il faut jamais donner de date.
Ni de chiffres, ni de date.
Et là, il n'y a pas encore appris ça, le président.
Michel Cotta, pourquoi s'enfermer dans un calendrier ? Vous entendez ce que disent les Français ? Et les Français, ils nous disent, arrêtez de nous prendre pour des gogos.
Oui, mais la vérité. Les gens sont beaucoup plus astucieux que ça. Ils voient bien que la situation évolue.
Mais si on n'est pas en capacité de les tenir, ces objectifs, il faut mieux rien dire.
Oui, effectivement, vous avez raison. Mais en même temps, Boris Johnson a tout à fait marqué des points, je trouve, en étant capable de dire « oui, tel jour on fait ça, tel jour... » parce qu'il a énormément vacciné. Mmh. Bon, en fait, tout tient à la stratégie vaccinale.
Mais pas tant que ça, parce qu'aux États-Unis, par exemple, ils vaccinent à tour de bras, sans mauvais jeu de mots, et en même temps, les infections, elles continuent. Donc, il ne faut pas non plus uniquement se fonder sur la vaccination.
Mais ils sont loin des 90%.
Ce que je veux dire, c'est que...
Puisque l'Institut Pasteur fixe pour la France à 90% à peu près le degré d'immunité générale. Et bien, franchement, on en est loin. Je ne sais pas si on ouvrira ou si on n'ouvrira pas. Oui. En tout cas, on est loin de l'immunité collective en France.
Oui.
Tandis qu'en Angleterre, ils y sont quand même parvenus.
Et normalement, tout ça doit s'accompagner. C'est ce que disent, là je répète bêtement ce que disent les épidémiologistes, mais d'un traçage efficace.
Oui,
alors maintenant, on est rentré à fond les ballons dans la vaccination, mais on a un peu perdu de vue l'idée du traçage.
Moi, je pense que de toute façon, il fallait quand même interroger cette idée de vivre avec le virus. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on trouve un accommodement avec le virus. Et encore une fois, je pense qu'on n'en trouve pas d'accommodement avec ce virus. C'est tout. La démonstration en est faite. C'est qu'à un moment ou à un autre, on est obligé de prendre des mesures sanitaires. Et Dozio, il est certain qu'il y a quand même beaucoup à faire de ce côté-là. Quand vous êtes malade, ce qui m'est arrivé, bon, on vous appelle très vite, mais ensuite, ça tient entièrement à la discrétion du patient de sortir ou pas sortir. Déjà, premier point. J'ai entendu hier quelqu'un à la radio qui disait, ah ben moi je rentre du Brésil, je crois que c'était, j'ai eu un test négatif, donc du coup, non, je ne vais pas m'isoler en rentrant. C'est pas normal que quelqu'un qui rentre d'un pays comme ça, à ce point à risque, ne soit pas obligé de rester chez lui pendant 7 jours.
France.
Parce qu'en France, on ne parle que de liberté et on a voulu défendre nos libertés contre le tracing, etc. On ne parle que de ça.
Mais c'est important, on veut défendre
la liberté. Mais oui. Et le résultat, c'est quoi ? Vous pensez qu'il y a la liberté aujourd'hui en France avec le confinement, avec le couvre-feu ? Vous appelez ça, vous, la liberté, ce qui se passe ? Vous voyez, vous baladez dans les rues avec tous ces commerces qui vont fermer. Vous appelez ça la liberté ? Non, alors on a la liberté, ce beau mot. Il ne faut pas tracer, il ne faut pas, comme le font la plupart des pays normaux. Nous, non, comme d'ailleurs les pays européens, c'est pareil aussi, c'est la même politique partout. Et c'est une politique absurde.
Ouais.
Il faut penser à notre vraie liberté.
Vous énervez pas, j'y suis pour rien, moi, France. Michel Cotta.
Plus loin, au fond, c'est les Français qui se réjouissent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Mais
simplement, les Français n'ont que le mot de liberté à la bouche. Et d'une certaine façon, ils sont responsables de cette espèce de demi-mesure.
Les Français.
À partir du moment où, dès qu'on fait quelque chose, on atteint à la liberté. On a attendu toutes ces lois.
Moi, je ne suis pas certaine, quand on dit les Français, ce qui m'intéresserait, c'est de voir dans le détail. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une proportion des Français qui s'est beaucoup mobilisé contre la fameuse dictature sanitaire. Mais j'ai l'impression que ce que nous disons là, il y a beaucoup de gens qui le pensent aussi.
Non, mais les Français ont quand même été sacrément résilients. Enfin, faut le dire, pendant un an, depuis un an, regardez dans les rues, là, tout le monde respecte le couvre-feu, le confinement. Alors, 18h38, je suis navré, on est obligé de s'arrêter quelques secondes. On se retrouve dans un instant, discussion évidemment passionnante. On s'interrogera aussi sur l'idée de cet hommage aux victimes. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, la suite du débat des grandes voix avec toujours Michel Cotta, Franz-Olivier Gisbert et Claire Chartier, rédactrice en chef débat et idées à l'Express. Alors, je voudrais vous entendre aussi sur cette histoire d'hommage national, d'hommage pour les
les morts du Covid. On a dépassé, ça y est, le seuil des 100 000 morts, ce qui a donné lieu à des annonces visiblement un peu précipitées. Dommage aux victimes, ça aurait lieu, nous dit-on, mais pas tout de suite. Je voudrais qu'on écoute à ce propos Michel Parigot. Il est président de l'association Corona Victimes. Il est au micro Europe 1 d'Hélène Terzian.
Il faudrait une journée d'hommage aux victimes, mais ça ne peut pas être un hommage rendu par le gouvernement qui est précisément responsable de ces victimes. Donc si hommage il doit y avoir, c'est un hommage de la société civile.
C'est dur hein, ce qu'il dit, ce monsieur. Il est président de l'association Corona Victimes. Oui. Au-delà de cette petite polémique sur les propos qu'il tient sur la responsabilité ou pas du gouvernement, un hommage, c'est important, il en faut un.
Moi, il y a quelque chose qui me dérange quand même hein, dans cette idée-là. Je trouve que ça serait effectivement peut-être souhaitable d'honorer le souvenir de ces gens qui sont morts dans des conditions effectivement tout à fait déplorables, privés du soutien de leurs proches. Enfin, on le sait, il y a eu un véritable défaut d'éthique de ce point de vue-là. Donc je pense que c'est plutôt sur ça qu'il faut s'interroger. Après, à quoi on rendrait hommage exactement ? C'est-à-dire, est-ce que c'est au fait de s'être battu terriblement, mais malheureusement de façon infructueuse, contre la maladie, oui. Mais ils ne sont pas les seuls quand même, malheureusement, et vraiment tout en honorant tout à fait leur mémoire. Donc ça me dérange un peu. Je pense que s'il y a un hommage, en tout cas, ça c'est certain, je trouve qu'il faut rendre aujourd'hui, oui. C'est l'hommage aux soignants, vraiment. Et je trouve que déjà un hommage qu'on pourrait leur rendre, oui. C'est en commençant par cesser de minimiser cette pandémie et en appliquant les mesures sanitaires.
Vous vous souvenez, vous vous souvenez qu'il y avait eu une forme d'hommage le 14 juillet dernier pour les soignants avec cette scène absolument magnifique, très émouvante de tous ces soignants qui avaient rejoint les militaires devant le...
Mais écoutez-les en ce moment comme ils doublent leurs heures, ils n'en peuvent plus, enfin, c'est à eux qu'il faut rendre véritablement...
Et puis il y a eu des augmentations salariales depuis, voilà, c'est une forme d'hommage qu'ils demandaient depuis longtemps. Michel Cotta, hommage ou pas ?
Je trouve ça ridicule.
Ah, voilà. Ridicule, pourquoi ?
Je trouve ça vraiment ridicule. Pourquoi pas alors aux victimes du cancer.
C'est ça.
Je trouve ça très démagogique en réalité. Et en réalité, ça ne s'explique que par la première partie du propos de M. Parigot. Mmh. C'est-à-dire, c'est surtout pas au gouvernement qu'il faut rendre hommage, c'est aux gens, moyennant quoi, entre le gouvernement et les gens, il y a un virus, c'est embêtant.
Oui. Mais,
enfin, je trouve que la Toussaint, hein, ça a été une journée pour tous les morts. Après tout, pourquoi pas pour les morts du sida, pourquoi pas pour les morts du cancer, on n'arrêterait pas.
Alors, c'est une idée, précisons-le, qui vient tout de même des associations de familles de victimes du Covid, qui demandent depuis mai dernier l'instauration d'une journée d'hommage national en souvenir de leurs proches décédés. C'est pour ça que ce monsieur mettait en porte-à-faux le gouvernement. Hommage ou pas, François-Olivier Gitter ?
Je suis un peu sur la position de Michel Cotta, franchement.
Arrêtez d'être toujours d'accord.
Une fois de plus, oui, non, mais attendez, mais simplement quand même, j'ai du mal aussi à être contre les hommages. Mais c'est vrai qu'on vient de parler de l'hommage aux soignants. Moi, je pourrais parler aussi l'hommage aux pompiers, aux sapeurs-pompiers qui jouent un grand rôle dans cette affaire, les policiers également. Enfin, je veux dire, il faut un peu élargir.
En somme, vous dites hommage aux vivants et pas un hommage
aux morts. Aux deux. Moi, je trouve de toute façon l'idée de. Je ne suis pas contre, en principe, un hommage aux morts, évidemment, bien entendu, un hommage aux ancêtres. Enfin, on a tendance à trop les oublier dans notre société aujourd'hui. Mais bon. Mais en même temps, le vrai mot, là, et c'est ça qui m'a accroché chez Michel, c'est le vrai mot. Il y a beaucoup de démagogie là-dedans. On est dans une société, de toute façon, où tout le monde est victime. Donc, allez, voilà, vous avez moi, c'est quelque chose que je trouve cette proposition. Oui. Il y a quelque chose, on voit très bien, de profondément démagogique. Et les propos même tenus sur le gouvernement, c'est quand même pas le gouvernement qui est responsable des morts et qui a inventé le Covid. Enfin, il faut arrêter.
Claire Chartier.
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des mesures beaucoup trop... qui étaient quand même vraiment pas fondées lors notamment du premier confinement, avec ces EHPAD verrouillés à double tour, vraiment, et cet isolement des familles.
Il y a des tragédies.
Non, mais c'est certain. Ouais. Mais donc, c'est vrai que ça serait peut-être aussi soldé à bon compte toutes ces défaillances aussi, quelque part. Donc, c'est là aussi pourquoi ça me dérange, cette idée de...
18h45, on se retrouve dans un instant. Je voulais vous faire réagir sur cette petite polémique autour du voyage de Jean-Luc Mélenchon, qui est parti, nous dit-on, en goguette en Amérique latine. Et puis Philippe de Villiers, qui appelle à l'insurrection en France. On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h47, on est toujours avec le débat des grandes voix du jeudi, avec cette petite polémique qui monte. Je le disais, Jean-Luc Mélenchon qui est en voyage en Amérique du Sud où il a été invité à participer à la Journée de la Terre en Bolivie et en a profité pour s'arrêter en Équateur. C'est une escapade qui n'est visiblement pas du goût de tout le monde puisque ses opposants dénoncent sa petite balade à l'autre bout du monde alors que les déplacements des Français sont limités par les restrictions sanitaires. Alors ce matin, Adrien Quintenens, député LFI du Nord, a été interrogé et il a répondu ceci.
Il est dans un pays qui a fermé ses frontières, la Bolivie a fermé ses frontières avec le Brésil avant la France. Et quand Jean-Yves Le Drian, il y a quelques jours de ça, Jean-Yves Le Drian est en Inde où l'épidémie circule beaucoup plus et explose, je ne vois pas que les gens s'en soucient. Quand la France va atteindre 100 000 morts de l'épidémie de Covid, je ne crois pas que le problème ce soit les déplacements internationaux de Jean-Luc Mélenchon et la majorité ferait bien de balayer devant sa porte.
Voilà qui est dit. Claire Chartier, c'est une polémique légitime ou non?
Je pense qu'en tout cas, ça colle bien avec le personnage. Hein. Mélenchon, il a beaucoup lutté contre l'état d'urgence, etc. Donc c'est une façon de s'opposer, de faire un pied de nez. Oui. En plus, ça a un avantage quand même symbolique pour lui, c'est qu'il va sur une terre qui est une terre promise pour les gens qui se revendiquent du populisme de gauche. Hein. C'est quand même très symbolique. Bon, il n'est pas allé en Argentine, mais c'est en Argentine qu'on trouve celui qui est le grand théoricien du populisme de gauche, Ernesto Laclau, qui a, lui... réussi à finalement recycler le marxisme en une théorie qui montre que finalement la vraie ligne de fracture aujourd'hui, c'est plus entre ceux qui possèdent les moyens de production, c'est entre l'élite, la fameuse élite, et le peuple. Donc aller là-bas, c'est vraiment envoyer ce signal-là. Et puis il y a un deuxième avantage pour Mélenchon, c'est qu'il il montre là un engagement vert qui lui fait jusque-là défaut, parce qu'on ne le connaît pas forcément sous cet angle-là.
Avec un déplacement en avion,
mais au-delà de ça, la réponse d'Adrien Quatennens, c'est quand même un ministre de la République. Évidemment, Jean-Yves Le Drian continue de circuler. Il est ministre, il représente la France. Le comparatif est quand même un peu farfelu, non ?
Oui, le comparatif est farfelu, mais le plus drôle dans ce qui est arrivé à Mélenchon, c'est son tweet. Vous ne le citez pas, mais c'est un tweet absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est là-bas, à des milliers de kilomètres, et il pense déjà à Yves Jadot, qui va réunir la gauche samedi, et il lui dit que son candidat, le candidat, était battu d'1,7 million voix. Pourquoi ? Parce que les écologistes ne se sont pas désistés pour eux. Oui. Alors c'est déjà un message, vous voyez, comme une maison qui dit aux écologistes, Mélenchon qui gagne, et c'est vous, écologistes... qui m'a apporté vos voix. Je trouve que profiter d'un voyage en Équateur pour ça, c'est quand même assez
habile. C'est vrai, vous avez raison, Michel Cotta, il y a le fond et puis il y a la forme. Sur la forme, est-ce que ça vous choque, Jean-Luc Mélenchon, à la différence des Français qui sont confinés, partent à la rencontre de ses soutiens ou de ses partisans ou de ceux qu'il admire, c'est selon,
en Amérique latine. Ça ne me choque pas affreusement, mais il y a quelque chose d'un peu triste dans tout ça, d'un peu de comique involontaire, on voit très bien. Parce que, et je ne m'arrête pas à ces petites polémiques qui sont un peu absurdes et je trouve que la réponse de Quatennens c'était bonne là-dessus. Simplement, qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? C'est tout. C'est la question qu'on peut se poser au moment où il y a des tas de questions qui se posent en France.
Et quel avenir il dessine? Je crois que c'est une vocation symbolique.
Parce que franchement, je pense que personne n'a tellement envie d'avoir l'avenir d'un certain nombre de ces pseudo-démocraties d'Amérique latine, même s'il y a des vraies démocraties là-bas. Mais enfin, c'est une démocratie souvent particulière. Donc, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est plutôt triste qu'autre chose.
Bien, c'est un faux débat.
Ah oui, sur l'aspect petite polémique, oui. Non, mais en revanche, je pense qu'il y a une dimension quand même, un petit message symbolique au regard de son électorat.
C'est un peu triste.
Ça veut dire d'ailleurs, cela dit en passant, François-Olivier Gisbert, Michel Cotta, ça veut dire que cette volonté d'union de la gauche, c'est déjà mort-né.
Ah oui,
En tout cas, samedi, on verra, c'est très intéressant, c'est le premier échange.
Oui, mais si Jean-Luc Mélenchon dit déjà qu'il n'y participera pas.
On verra, mais en tout cas, effectivement, Mélenchon a fait dire qu'il n'y allait pas. Et personne n'a de doute sur le fait qu'il ne se mettra pas derrière les écologistes, qui ne se mettra pas en numéro 2 du Parti socialiste.
Les écologistes ont une mentalité très dominatrice, ce qui est difficile déjà au départ.
Très mal,
parce que,
prédominatrice, mais comme ils sont tellement divisés, ça va être difficile de prédominer quelque chose.
Vous savez ce qu'on fera? Il est prévu qu'on lui passe un petit coup de fil, ou plutôt qu'il nous passe un petit coup de fil la semaine prochaine à 18h20, donc on lui posera toutes ces questions. Depuis l'Amérique latine, justement, il sera avec nous.
Ah bah c'est intéressant.
Je voudrais maintenant qu'on parle de Philippe de Villiers. Il donne une grande interview dans Valeurs Actuelles où il appelle à l'insurrection et fait une revue de toutes les théories du complot, le grand remplacement, le grand reset, qui dit que le virus a été créé pour soumettre les peuples au nom d'une élite, et il appelle à refranciser la France. Alors, il était au micro de Sonia Mabrouk il y a quelques jours dans ce studio et il disait ceci.
Il ne semble pas voir ce que moi je vais vous dire ce matin qui va faire trembler les murs du studio.
Nous sommes face à un problème, non seulement d'invasion, mais de colonisation. Colonisation de peuplement. Ensuite, la colonisation de conquête. Et la colonisation des esprits, c'est la pire, Sonia Mabrouk.
Bien. Qu'est-ce qui lui arrive à Philippe de Villiers ?
C'est un livre complotiste, d'ailleurs. J'ai été très étonnée, parce que d'abord, il a beaucoup de talent, il écrit très bien, etc. Et puis j'ai voulu lire son livre, et il y a, sur les 50 premières pages, un résumé du complotisme. Tout ça a été préparé en Amérique, la pandémie,
ça s'appelle
etc.
Le jour d'après, c'est ça ?
Donc ça s'appelle le jour d'après. Oui. Alors, je trouve que le début de ce jour d'après me fait un peu douter de ses prédictions.
Qu'est-ce qui lui arrive à Philippe de Villiers ?
Sur ce point-là, pardon, c'est pas la première fois. Hein. Il avait déjà dit que l'Union européenne était la création de l'Union européenne était un projet de la CIA avec ex-nazis.
Oui. Mais qu'un virus soit le projet.
Le complotisme chez lui est d'ailleurs, c'est tout à fait dans la lignée de l'extrême droite. Enfin, le complotisme et l'extrême droite, c'est quand même une vieille histoire.
Mais
donc,
c'est quand même grave de dire des trucs comme ça parce que ce sont des jeunes qui les relaient sur les réseaux sociaux. On s'en insurge.
Il va nous faire regretter Marine Le Pen, vous allez voir.
C'est tout simplement délirant.
Il a un statut particulier, de toute façon, dans la société française, on voit très bien aujourd'hui. D'ailleurs, ce qu'il a toujours été, même quand il avait des titres politiques, c'est pas un politique. C'est pas un politique. Michel a raison, ses livres sont.
Enfin, on se souvient de ce qu'il disait.
Il a du talent.
On se souvient de ce qu'il disait quand Emmanuel Macron allait lui rendre visite pour jouer la.
Oui, mais il allait comme entrepreneur. Il voyait Macron comme entrepreneur. Ouais. Il est entrepreneur. Le Puy du Fou, c'est un énorme succès. Ça s'exporte à l'étranger. Vous voyez, tout le monde y va. Enfin, c'est autre chose. C'est un personnage, disons, pour moi, il est complètement en dehors.
Oui, mais là, quand même, il a franchi un petit cap. Écrire un bouquin complotiste, c'est quand même pas rien.
On sent qu'il voudrait peut-être un petit peu rivaliser avec Éric Zemmour sur la surface médiatique qu'il voudrait occuper, etc.
Les raisonnements d'Éric Zemmour sont toujours plus étayés que ceux de...
Oui, mais on sent qu'il voudrait peut-être avoir cette même lumière. Il dit quand même des choses. Enfin, il dit je ne fais que dire ce que j'ai vu sur Internet. Donc,
il y a un petit côté de Donald Trump aussi. On a l'impression qu'il se donne cette image de populiste à la Donald Trump.
Peut-être que je me trompe totalement, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des candidats à quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de participer au débat, de dire des choses.
Non, parce que si on parle d'un candidat, c'est la rigueur de son frère, le général, dont tout le monde se dit est-ce qu'il va être ou non
avec
sur les
lequel
listes.
Il est très lié, et qui était d'ailleurs le général préféré de François Hollande, c'est ça
mais,
qui est.
Mais pardon, mais participer au débat avec ce genre de propos, c'est quand même, quand même un souci, il faut quand même le relever. On ne participe pas au débat en répandant des théories complotistes. Enfin,
on est d'accord,
c'est pas du débat.
Il y a des gens pour les condamner et pour les critiquer, et moi je déteste aujourd'hui en France, qui est quand même.
Non, mais on lui donne quand même une place assez importante.
C'est-à-dire, il faut le faire taire. Moi je pense que une voix. Mais... Moi aussi, quand j'étais journaliste à la place de Sonia Mabrouk, d'ailleurs, je l'interviewais. Il passait de très mauvais moments et tout le monde rigolait en studio parce que ça y est. Mais enfin, je pense qu'il est. Il est, d'une certaine manière, il est utile. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de son dernier livre. Je ne l'ai pas lu, donc pour dire les choses, je vais le lire.
Est-il utile lorsqu'il il répand des théories complotistes
Mais si c'est ça, bien sûr. Mais, moi,
mais
je trouve qu'il a perdu quelque part son personnage. Ouais. Parce qu'effectivement, il avait un personnage de droite. Vous savez, on disait à un moment donné, c'est un Le Pen chic. C'est ce qu'on disait quand il avait un Le Pen. Bon. Et il prend une autre route, qui est une route que je trouve désolante.
Bien, merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du jeudi.
Europe 1, Julien Bugier.
On se retrouve dans quelques secondes avec le journal et le Club des idées. On reviendra ce soir sur l'affaire Dupont de Ligonnès. A tout de suite.
Europe 1, écoutez le monde changer.